Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 16 août 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en léger recul, moins 1% sur les dernières 24 heures, sous les 118 000 dollars. Un Ether qui consolide, puisqu'il venait de s'approcher un peu trop près de son ancien ATH. On est venu autour de 4300, on est à 4430 ce matin. Avec un market cap autour de 540 milliards, on a XRP qui recule même en hebdo, moins 6%. On a toujours deux lignes dans l'intégralité dans le vert pour Dogecoin et ADA Cardano, qui est à plus 18 en hebdo, hyper liquide également, toujours en positif en hebdo, léger recul en journalier, Chainlink qui recule de 4% et qui est finalement qu'à l'équilibre en hebdo, peut-être un peu déçu des buybacks qui ne seront pas à la hauteur de ce qu'escomptait justement le marché. Donc à voir par la suite si ça venait à évoluer positivement. On a Toncoin également dans le vert, plus 1,61, les hauts tokens, du côté de Ethena aussi, 72 centimes, 4,80 milliards, après nous avoir poussé 100% sur le mois. Mantle qui fait une très très belle perf à court terme, 13%, 16 sur la semaine et 58 sur le mois. On est du côté de la DeFi. Et on clôture ce top 50 donc comme d'habitude avec World Token, Bank Official Trump qui sont entre 1,86 et 1,84. Donc on voit que le top 50 est en train de stagner et c'est exactement ce qu'on peut observer sur le 4 heures après ce double échec quelque part autour de 123, 124 000 pour Bitcoin. Donc désormais, le mieux qu'on ait à faire, et notamment avec des open interest qui sont en train probablement de mettre un petit peu de levier ici, ça serait de défendre à minima la zone des 112 ici, avec une petite médiane qui se trouve autour de 115. Et si jamais par la suite, les 110-112 venaient à ne pas tenir, avec un crypto fear and greed qui est repassé sur neutral, on voit qu'on est très loin de l'extrême euphorie ou de l'alt season pour l'instant, eh bien on pourrait revenir quelque part autour de 100 000, avec une intermédiaire là aussi sur le range partie basse, on va l'appeler ainsi, qui serait autour de 105 000 dollars. Donc vous avez à peu près des supports qui vont de 5 000 dollars en 5 000 dollars. Avant de passer aux infos, je suis tombé sur un post de octobre 2023 au sujet de la liquidité globale mondiale. Et donc c'est le chart tout en bas de cet article qui m'a un peu interpellé avec un graphique qui démontrait qu'on aurait un pic là aussi quelque part autour de fin 2025 et au cours de 2026 voire 2027, on aurait par la suite une redescente de tout ça avec peut-être une baisse de taux qui sera actée, un peu plus de détente et on va voir si notamment du côté du secteur de la tech ça n'est pas un peu trop capitalisé, si les secteurs hors technologie aux États-Unis vont pas commencer à justement sentir un peu le vent tourner vis-à-vis des tarifs de Trump. Je vais y venir dans un instant, mais quelque part il commence à y avoir d'ores et déjà des effets délétères pour l'économie américaine. Donc hier j'ai passé pas mal de temps à chercher des data notamment par rapport aux midterms qui arriveront autour de novembre 2026, donc je pensais que c'était un peu plus tôt courant 2026, mais en fait ça nous reporte à un an presque et demi pour l'automne fin d'année 2026. Toujours est-il, au cours de cette année de mid-term, en général on a une volatilité plus grande et une volatilité négative qui a tendance à pointer le bout de son nez. Donc si vraiment on se fie à l'historique sur une cinquantaine d'années et qu'en plus on introduit la variable Donald Trump 2017-2018, un peu à l'image de ce qui est en train de se dérouler maintenant, on pourrait en effet avoir une année 2026 qui viendrait s'intercaler un peu en guise de bear market, que ça soit pour le marché américain ou pour le marché crypto, quand bien même en effet peut-être entre temps on aura eu la Fed qui aura commencé à baisser des taux. Et là aussi en fait, comme ils arrivent souvent un peu après la guerre, eh bien on a tendance à observer qu'à partir du moment où la Fed baisse les taux, ce qui devrait être synonyme pour les marchés d'un peu plus de crédit, d'un peu plus de flux, etc., eh bien c'est un peu l'inverse qui se passe, en tout cas à court et moyen terme. Au niveau des infos, on a le spot Bitcoin et Ether donc, qui ont fait 40 milliards de volume, record absolu, et du côté de Ethereum, on a une remontada qui est assez extraordinaire puisqu'on est en train de faire régulièrement au-delà de 500 millions et il y a eu une journée, on en avait discuté précédemment, qui a été à hauteur de 1 milliard, sachant que le total, le jour où on a fait le milliard d'inflow pour Ether, était de 8 milliards depuis le début de son introduction. Donc en une seule journée, on a fait un huitième de tout ce qui avait été fait depuis le départ. Donc vraiment, il y a un gros FOMO qui est en cours sur Ethereum, que ça soit pour les institutionnels et très certainement les particuliers qui sont un peu frustrés de ne pas l'avoir chopé plus bas. Après, comme d'habitude, hein, vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais en général, rien ne sert de courir après le prix. On attend patiemment qu'il vienne jusqu'à nous. On a Solana Ether qui continue sa downtrend. Donc depuis approximativement avril, mi-avril, des tarifs l'arrive de Trump, Solana qui a topé face à Ether, et Ether qui est en train de faire à son tour le trou noir vis-à-vis des altcoins, puisque c'est ce qu'on peut observer. On a eu la double peine finalement pour les alts sur ce cycle. Bitcoin premièrement, maintenant Ether. Est-ce que Ether va réussir à suffisamment capitaliser pour faire un petit peu ruisseler vers les altcoins avec une alt season qui, d'après Coinbase, devrait arriver autour du mois de septembre 2025, donc dans seulement une quinzaine de jours désormais. Voilà, merci à eux de nous prévenir gracieusement que l'alt season à grande échelle telle qu'ils l'ont décrit arrivera en septembre. On a trouvé ça un petit peu marrant de notre côté. Mais bon, comme on l'a décrit aussi pas mal de fois, oui, dans certaines conditions spécifiques, il peut y avoir une alt season. Mais je suppose que tout ne sera pas si facile et si rose au final. En attendant, on a le Dow Jones industriel qui nous a fait un nouveau point haut, 45 126. Donc là aussi, les indices, peu importe où l'on regarde, S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, font tous des ATH. Donc peut-être aussi après un run de 20, 30, 35% pour les indices depuis avril 2025, il faudra commencer à penser à se payer un petit peu. Après, c'est vrai que ceux qui achètent des ETF défendent le fait que sur 10 ans, 20 ans, il vaut mieux ne pas y toucher que tenter des entrées-sorties. Ça revient un peu au même que ceux qui veulent hold le Bitcoin pour 5 ou 10 ans, à ceci près que, bon, du côté de la bourse américaine, en effet, on a peut-être un peu moins de volatilité, bien que ça puisse se discuter depuis 2020, et un peu plus d'historique que Bitcoin. Donc il y a bon nombre de personnes, encore à aujourd'hui, bien entendu, qui préféreront investir sur du solide, sur du tangible, c'est-à-dire les actions et la bourse, bien que ça représente déjà un risque qui est assez important, somme toute. Et de notre côté, on a Bitcoin qui petit à petit est en train de se dessiner un chemin au milieu de toute cette finance internationale et mondiale. Une prédiction de Pantera Capital en 2022, ils avaient estimé que le top sur ce cycle pourrait se trouver autour de 118 000 dollars autour du 11 août 2025, soit seulement 1% d'écart par rapport à la date prévue. Et ils aussi mettent en avant qu'à cette époque, 2022, on aurait la finalité de ce top en août. Donc, entre-temps, il s'est passé tellement de choses entre 2022 et 2024 avec les ETF, etc., que voilà, prendre ça pour argent comptant, on va prendre pas mal de recul par rapport à ce genre de prévision. Mais en tout cas, force est de constater qu'on a eu cette prévision qui a été faite 3 ans au préalable et qui s'est plutôt pas mal établie, à la fois en termes de prix et à la fois en termes de timing. C'est assez remarquable. Est-ce que les proxys de type MicroStrategy et les Treasury Company commencent à lâcher du mou vis-à-vis du Bitcoin lui-même? On arrive sur un 4 mois low au niveau de Strategy par rapport à Bitcoin. Donc est-ce que ça va défendre enfin pour ces superstructures? Eh bien, on va voir là aussi avec un mois de septembre qui, d'un point de vue des saisonnalités, est en général pas si ouf que ça pour le marché crypto. Quand on parle des inflows, effectivement, Bitcoin sur la journée d'avant-hier était à 230 millions et Ether est à 640. Donc on peut vraiment mesurer là l'engouement qu'il y a actuellement autour de Ether. Et hier, je regardais du côté de ChatGPT ce qui maintenant, au vu des informations disponibles, la liquidité mondiale, les inflows des ETF, etc., j'ai essayé via 5O Thinking de lui demander une réflexion la plus poussée possible et en prenant en considération le plus, on va dire, de data collectée, peu importe que ça soit la liquidité mondiale, le fait qu'on ait un entre-deux demi-termes, de comparer un petit peu au niveau des cycles, au niveau des deux présidences justement du mandat de Trump, etc. J'ai pris vraiment un max de trucs. Eh bien, il pense effectivement que l'inflow a un impact relativement important pour la suite quand on observe depuis 2024, ce qui est plutôt logique désormais. Et donc, je vous le donne pour l'instant parce que c'est peut-être quelque chose qu'on va rajouter dans nos top indicateurs à suivre par la suite, que vous pouvez retrouver sur alerts.thecryptomatrix.fr. On va rajouter le fait que ChatGPT nous donne, à partir du moment où on a 3 jours de outflow consécutifs à hauteur de, là aussi, il va falloir jauger de la, on va dire, la fourchette, parce que c'est la première fois qu'on va observer ça, donc ça va être un truc qui n'est pas forcément pertinent immédiatement. Mais lui pense qu'à partir de 300 à 500 millions par jour d'outflow sur 2 à 3 jours consécutifs, il donne 3 jours pour être large, eh bien ça pourrait signifier un changement profond de trend d'un point de vue du comportement des participants. Et c'est plutôt intéressant puisque la dernière fois, avant de faire le milliard daily qu'on a vu sur Ether il y a quelques jours, la veille on avait fait moins 500 millions. Donc on a 500 millions qui sortent au niveau des outflows, on va dire voilà, il y a 4 jours, et le lendemain on fait de nouveau 1 milliard qui rentre en positif. Et donc c'est vrai que si on venait à avoir du 300-500 millions 3 jours d'affilée qui sortent, ça peut signifier en amont que vraiment on commence à avoir un désengagement d'un point de vue des institutions et d'un point de vue des ETF, donc ça sera un truc à surveiller. Et petit à petit j'essaie de voir un peu plus ce sur quoi on pourrait s'appuyer avec un cycle qui, comme vous le savez, a redistribué très largement les cartes. Si AAV était une banque, elle serait actuellement classée 38e au monde. Il y a une erreur dans ce poste, c'est 38e aux États-Unis, assuré par la FDIC. Donc je ne l'ai pas corrigé directement ici, mais merci à la personne qui m'a fait la correction directement dans les commentaires. Donc AAV qui serait 38e avec 68 milliards de TVL, donc aujourd'hui qui est bloqué en son sein et qui petit à petit est en train de gravir ses échelles. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui la DeFi à l'équivalent d'une banque? Voilà, je pose aussi la question. Benjamin Cohen est qui nous démontrait que Ether continue de défoncer les altcoins. On a l'impression que les alts ont un petit peu récupéré, mais voilà, il valait mieux détenir ces dernières semaines de l'Ether, et c'est pas qu'un peu en plus au niveau de ce ratio. Comment pourrait aussi se matérialiser le, on va dire, entre maintenant et la rentrée? Je suppose que Bitcoin risque de récupérer un petit peu de dominance si on vient à avoir une baisse entre cette deuxième partie d'août et septembre. Et par la suite, de nouveau, par effet de vase communicant, Ether qui viendrait à s'affranchir de son ATH, c'est-à-dire les 4900, puisque là aussi, selon où l'on regarde, selon les échangeurs, les TradingView en dollars, en USDT, enfin peu importe, on est entre 4850 et 4950. Personne n'est d'accord. Donc on va dire autour de 4850 à 4009. Et globalement, à partir du moment où on franchit les 5000, on va viser voilà, de 500 en 1000, 6000, 7000, etc. Et c'est là où je suppose il y aura peut-être un coup à jouer sur, si on se fie à ce timing, une périodicité qui serait autour d'octobre du côté des altcoins, tout en ayant bien en tête que quand on vous agite le foulard du côté des réseaux sociaux, qu'on va faire des fois 10, des fois 20 ou je ne sais quoi sur des trucs qui sont déjà capitalisés, libre à chacun de penser ce qu'il veut bien entendu, mais ça n'est pas le postulat qu'on a sur la chaîne. Journal du coin, depuis juillet, les trésoreries d'entreprises ont accumulé 2,2 millions d'Ether, soit près de 1,8% de l'offre en circulation. Bitmain en détient à elle seule 1,15 million, devenant ainsi le plus grand détenteur institutionnel. Donc on voit le réveil tardif sur Ether, mais c'est un réveil qui est tonitruant. Jérôme Powell qui va se retrouver très prochainement un peu dans une position délicate, et on y vient juste avant de parler de Google qui acquiert 8% de la société de mining TerraWolf Inc. avec le cours qui a bondi d'une cinquantaine de pourcents. Et donc ces data, avec notamment le prix à la production qui est assez catastrophique à court terme par rapport à ce qui était estimé, et on commence d'ores et déjà à avoir une sainte trinité de configuration aux États-Unis qui vraiment ne fait pas rêver pour 2026, justement avec une inflation qui est en train de repartir, c'est-à-dire que théoriquement il ne faudrait pas baisser les taux, voire par la suite il faudrait les remonter. Deuxièmement, on a la consommation et le prix à la production qui sont en train d'un côté de ralentir et de l'autre d'exploser en prix, ce qui va avoir pour effet de bord, de ricochet, de se répercuter sur le consommateur américain qui potentiellement va moins consommer, etc. Vous commencez à avoir le cercle vicieux. Et également, bon, c'est pas du tout le laïus de la chaîne autour de l'immobilier US, il y avait apparemment de plus en plus de gens qui vendent ou qui mettent en location leur immobilier, ceux qui pourraient, là aussi, voilà, je suis pas du tout expert là-dedans. Donc si toutefois il y en a parmi vous qui dans les commentaires veulent nous parler un petit peu justement de cette analogie qu'on pourrait avoir à la pré-crise de l'époque des subprimes par rapport à l'immobilier, alors je pense pas qu'on en soit arrivé à de telles extrémités, mais on sent qu'on a un ralentissement global généralisé aux États-Unis. Le tout qui est extrêmement porté au niveau du boursier par la technologie, par Nvidia, par tout ce qui est chipset et lié à l'IA, de près ou de loin. À partir du moment où on efface ce domaine-là, est-ce que l'économie américaine est si résiliente que ce qu'on veut bien nous le montrer du côté des réseaux et que ce que Dodo himself a tendance à vouloir le faire au niveau de son show? Voilà, je pose la question et je pense que le rouage est en train un tout petit peu de se gripper. Record d'Ether dans la queue pour unstaker, donc ça pourrait avoir plusieurs motifs aussi, je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais donc il y a deux clans qui s'affrontent un peu sur le Laius. D'un côté, en effet, on a premièrement déjà aussi des validateurs qui sont en attente pour rentrer, donc tout n'est pas si noir. Par contre, c'est vrai que si on vient à avoir l'approbation de staking sur les ETF, très certainement qu'ils vont vouloir sortir du staking basique pour par la suite re-rentrer un peu différemment. Donc à l'approche de l'ATH, bien entendu, on peut aussi avoir l'excuse du fait que certains veulent prendre des profits après 2, 3, 4 ans à être restés dans des STETH ou des trucs comme ça. Et l'autre pan qui défend le truc un peu plus institutionnel serait un effet de vase communicant par la suite pour changer tout simplement de support. On terminera avec trois petites infos et en 2025, il suffisait finalement peut-être de copy-trader le président des États-Unis puisque le World Liberty Financial Wallet était composé de 47 millions en Ether, 47 millions en Bitcoin, 4,7 millions en AAV, pareillement Chainlink, pareillement TRX et pareillement ENA. Et ils avaient rentré ça autour du 20 janvier 2025. C'est assez dingue. L'index Rolex 30 est-il en train de faire son bottom? En termes d'analogie, on pourrait comparer ça aux altcoins, justement, avec peut-être par la suite le petit sursaut de liquidité de fin d'année qui permettrait de pousser tout ça. Et tout en ayant bien en tête que c'est pas totalement garanti. Donc, les choses sont peut-être véritablement en train de se poser pour les marchés considérés vraiment spéculatifs et à risque. Mais du côté des altcoins, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir bouger outre mesure. Et on termine au niveau des infos avec le banquier estonien Rein Loomus qui a admis en 2023 avoir perdu l'accès à un wallet contenant 250 000 Ethers achetés lors de la prévente de 2014. Au prix actuel de l'ETH, environ 4 700 $, cette réserve est évaluée à plus de 1,2 milliard de dollars. Donc ça fait partie vraiment des choses qui, en cours de route, peuvent vous faire absolument tout perdre avec potentiellement une perte de clé privée, un hack, un wallet qui se fait siphonner ou bon nombre d'autres joyeusetés qui peuvent vous arriver en cours de route. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir des ETF qui vous sécurisent sur la partie TradFi, je peux vous garantir que les institutionnels, ils n'ont pas forcément envie de venir se frotter au self-custody et d'avoir leur multi-signature, etc. et tout ce qui pourrait défaillir autour de ça. En attendant, 3920 milliards, la bougie hebdo est assez dégueulasse pour l'instant, en tout cas. La semaine n'est pas finie puisqu'elle clôturera dimanche, demain soir, mais on a une bougie de point haut, 4170 milliards, on se fait repousser sous les 4000, donc pour l'instant, c'est la zone de RSI qu'on avait identifiée au préalable, avec une double traîne qui passe entre 70 et 68 pour de l'hebdo et du mensuel. Je vous le montre en hebdo, je vous le remontre en mensuel pour que vous voyez bien de quoi je parle. En mensuel, on l'a légèrement dépassé, mais bien entendu, il faudra valider que ça n'était pas une fausse sortie. Et le tout avec toujours 3 points qui, au niveau du cours, sont plus hauts chacun que le précédent, tandis que le RSI nous a fait 3 points plus bas, que ça soit en hebdomadaire ou en mensuel, à ce jour. Ça ne veut pas, pour ainsi dire, qu'on ne peut pas consolider et venir justement s'établir au cours de ce mois de septembre, si on venait à avoir un septembre rouge entre justement les 3300 et les 4000 milliards, ce qui correspondrait peut-être à Bitcoin entre les 100 et 125 000 qu'on a quasiment touché, et par la suite peut-être on aura un petit peu mieux, tout en ayant bien en tête que là sur l'automne on va marcher sur des œufs, on n'est pas garanti pour l'alt season, on ne sait pas quand est-ce que va être le top de marché, donc vraiment là le risque récompense désormais il va être à l'appréciation de chacun, à l'appréciation du temps que vous avez dans le marché crypto, et si c'est sur Bitcoin que vous êtes là pour 10 ans, vous vous foutez complètement de ce que je suis en train de raconter. Si vous êtes là que pour 4 ans et que vous avez joué ce cycle et que vous commencez à avoir des gains qui sont assez conséquents et que vous ne savez pas trop quand est-ce qu'il faut sortir, bien entendu que vous devez avoir un plan maintenant et que peut-être de faire un DCA comme ça au cours des prochaines semaines en fonction justement des étapes de marché semble être une bonne chose. De même que le jour où on reviendra potentiellement travailler autour de cette fameuse moyenne mobile 200 semaines, ça commencera à nous intéresser pour faire un DCA d'entrée. Du côté des alts, Crypto Total 2, c'est exactement la même musique. On s'est fait repousser à 1690 1710 alors que l'ATH était à 1710. C'est pour dire vraiment comme on joue avec nous sur ce cycle, à ceci près que, eh bien, on a peut-être une méga ta séance qui est en train de se dessiner ici. Donc précédemment, on pensait qu'elle allait arriver ici, elle était un tout petit peu plus petite et c'est exactement ce qu'on avait vu sur Ether. Malheureusement, on a un Ether qui finit sous les 1400 et je vais pas revenir sur le traumatisme que ça a été pour bon nombre d'entre nous de voir Ether repasser de 4000 quand on se voyait déjà aller à 10 et de repasser sous les 1400. Voilà, ça a été un peu le traumatisme de ce cycle. Mais en attendant, bah là, à grande échelle, en effet, on a plutôt un chart qui nous dit que les alts veulent péter par le haut. On a de gros volumes qui sont rentrés ces derniers mois et on a un RSI qui est juste sous les 70 en consolidation et qui, s'il pète, ça pourrait offrir quelque chose de plutôt correct par rapport à ce qu'on a vécu sur ce cycle. Mais voilà, si Bitcoin d'un seul coup nous dit ok, le cycle est finito, les institutionnels, comme on l'a vu tout à l'heure, commencent à sortir gros outflow, etc. au niveau des ETF, eh bien la fête sera remise à plus tard. Et ce qui voudrait dire qu'en plus, on n'a même pas eu un nouvel ATH du côté de Ether. Je vous raconte pas le cycle d'après, ça sera que du Bitcoin maximaliste. La Bitcoin dominance toujours sous les 60%, mais ça n'a pas l'air de vouloir baisser plus que ça, en tout cas pour l'instant. Le Bitcoin, bah voilà, hein, un double top pas parfait, mais les 120 à 125, ça n'a pas l'air de vouloir passer. Le RSI qui est peut-être en train là aussi de nous annoncer quelque chose de pas glop entre fin août et septembre 2025, donc une consolidation qui, si elle venait à s'activer, eh bien on a le 0,38 qui est autour de 104 105 000 et ça tombe bien puisque c'est là où on a la moyenne mobile 20 hebdo. Donc pourquoi pas, pour ceux qui veulent payer agressivement et qui pensent que le cycle n'est pas terminé, autour de 105 000, voilà, c'est une première zone intéressante. 0,618 qui est aujourd'hui à 93, mais ça voudrait dire qu'on a cassé vraiment la dynamique en repassant sous les 100K. Et pour le long terme, bah, dans un premier temps, la zone des 75 000 qu'on a déjà testée en avril 2025, et pour le très long terme, quelque part entre 50 et 60 000 dollars, puisque je le rappelle, à ce jour, la 200 est autour de 51 000 dollars, mais d'ici début 2026, elle sera à 60 000. Après, ce qui fera dans tous les cas la différence face à tout ça, c'est quel sera le point haut final de Bitcoin sur ce cycle. Donc si on pense qu'il est autour de 115-120, bien entendu que les 50-60 sont tout à fait de l'ordre du possible lors d'un bear market, tout comme on a tendance à surestimer les targets lors d'un bull run. Lors d'un bear market, on sous-estime souvent, par un peu défense psychologique, le point bas qu'on pourrait avoir. Et c'est là où ça a été très très dur. Je pense que vous vous en souviendrez, pour ceux qui étaient déjà là en 2020 à 2022, quand on est passé sous la fameuse moyenne mobile 200 qui se trouvait à 22 000 et qu'on est venu à 15 000. Voilà, là ça commençait vraiment à jouer des castagnettes parce que on avait, pour rappel, le monde entier qui était contre nous, les banques qui se faisaient slasher, qui étaient liées aux crypto, les échanges comme Coinbase qui tous les 4 matins étaient au tribunal, la SEC, la CFTC et tout ce qui allait bien. On avait vraiment un truc en mode Avengers anti-crypto. Et en plus, on avait FTX et Terra Luna qui sont passés par là et qui ont été vraiment dramatiques. Je pensais vraiment, quand on était ici au plus dur de 2022, qu'on mettrait 5 ans à se remettre complètement de ce qu'on avait vu et que même sur le cycle d'après, c'est-à-dire celui qu'on vient de voir, qu'on peinerait à retoucher les 70 000, tant ça avait été rude ce qui s'était passé en 2022. Donc derrière, pour nous, bah, la bonne nouvelle, c'est administration Trump, c'est ETF avec le plus beau et le meilleur départ jamais enregistré d'histoire de la finance. Les inflows continuent, voilà, très belle dynamique et ça a permis en 2024 de relancer une machine vraiment qui aurait pu s'essouffler. Et finalement, la question que je me pose aujourd'hui et qu'on devrait tous se poser collectivement, c'est à partir du moment où on a eu tant de bonnes informations et de positifs et de vannes qui sont complètement ouvertes à compter de 2024 et en 2025, qu'est-ce qui nous reste par la suite à venir explorer, à venir exploiter pour pousser le truc au next level? J'ai un peu peur, en fait, entre ce cycle et le cycle d'après, peu importe où se situera le prix de Bitcoin, bien entendu, si c'est 100 000, tant mieux, si c'est 150, 200, 250, encore mieux sur le cycle d'après, mais là, en l'état, par la suite, je suppose qu'on risque d'avoir malgré tout un peu ce cycle de plateau où la volatilité, vu qu'elle tend à se casser au travers du temps, risque de ne plus intéresser tant que ça, justement, dans un premier temps, les particuliers qui iront vers d'autres choses ou qui continueront un petit peu le gamble du côté des altcoins, et d'un autre côté, les institutions qui, eux, vont pouvoir se cadrer de plus en plus sur Bitcoin et viendront chercher comme ça leurs 10, 20, 30% de rendement annualisé, et ça sera déjà assez extraordinaire. Ether qui, du coup, ben, à l'approche de son en ATH ralentit et ne vient pas tout à fait le chercher. Petite consolidation possible en espérant ne pas reperdre les 4000. Donc entre 4000 et 4009, il peut se passer beaucoup de choses. Si on repasse sous les 4000, on revient au point des 3003, 3005. Je ne sais pas pourquoi on aurait besoin aujourd'hui, vu le temps que ça a pris de franchir les 4000, de repasser sous les 4000, si ce n'est que c'était un fake out et que derrière, de nouveau, on va se faire martyriser. Donc en l'état, on va espérer bien entendu que cet automne se passera au-dessus de 4000 pour Ether et par la suite si ça part 5000, 6000, 7000 comme on l'a vu précédemment. Aujourd'hui on a un imbroglio de moyennes mobiles qui sont toutes paquées entre la 200 à la 50, entre 2440 et 2770. Tout ça sera potentiellement, allez on va dire entre 2150 et 2800, notre terrain de jeu lors du futur bear market. Le S&P 500 a clôturé léger dans le rouge vendredi, donc 0,29, pas d'alarme pour l'instant. On a le VIX qui est autour de 15 mais qui n'a pas rebondi fantastiquement. Je pense aussi qu'il y avait peut-être une petite tension en amont de clôture de marché vis-à-vis de la rencontre Poutine-Trump qui a bel et bien eu lieu et pour l'instant voilà, il n'y a pas eu de grandes nouvelles si ce n'est que le ton avait l'air d'être assez apaisé au final. Le gold qui est juste au-dessus de la moyenne mobile 20 autour de 3335 $ l'once. Le taux à 10 ans qui n'a toujours pas dit son dernier mot, 4,32. Là aussi, est-ce que lorsque Powell va enfin décider d'enclencher le bouton à minima 0,25, peut-être 0,50 pour une première baisse de taux, on pourrait revenir autour de la moyenne mobile 200 et de la trend long terme autour de 3,72. Il y en a d'autres qui défendent le fait que même s'il baisse les taux, ça sera trop tard et ce truc va continuer de rester haut. En tout cas, vous pouvez voir exactement ce dont on a besoin au niveau des taux pour avoir une alt-season, pour avoir des Rolex qui prennent trois fois leur prix, pour avoir des sneakers, les chaussures qui se vendent à 5 ou 10 000 balles. Il faut avoir un taux qui passe de 3, 4, 5% à autour de 0% ou aller en dessous du 1% symbolique. Donc vraiment, on n'y est pas du tout dans cette configuration. Certes, on a la liquidité, on a la Chine, on a les États-Unis. Ça parle tout le temps de M2, de liquidité ou de liquidité mondiale globale. Mais tant que ça, c'est autour de 4+, pourquoi les opérateurs de marché viendraient se faire chier, entre guillemets, à venir chercher beaucoup plus de risques. En tout cas, c'est comme ça que l'économie américaine a l'air de vouloir le matérialiser pour le court et moyen terme. Les Treasury compagnies, vous voyez la volatilité de ouf qu'elles peuvent avoir avec Chaplin, qui est une Ethereum Treasury Company qui est passée de $2.34 à $127-128 et qui est désormais en recul, donc en seulement, on va dire un mois et demi de temps, de moins 85%. Donc je ne sais pas si on se rend compte la volatilité que ça peut avoir. À la hausse, c'était approximativement 5300%. J'ose pas imaginer ça lors du bear market, ce que ça va donner, mais on voit que voilà, le trading fait rage. Et le proxy le plus important, lui, est en train potentiellement de perdre sa moyenne mobile 20. MicroStrategy, perte de force face à Bitcoin. On a désormais une 50 qui est à 325, une 100 à 213. La sortie de l'ancien range juste autour de $200. Un gros support long terme autour de 145-150 $ et la moyenne mobile 200 qui est autour de $123 pour MicroStrategy, sachant que depuis octobre 2022, ça avait progressé de 4000% pour MSTR, alors que Bitcoin, comme vous le savez, a progressé d'approximativement 600, peut-être 700% désormais à vérifier. Mais voilà, on voit que les proxys, les Ethereum et Bitcoin Treasury Company ont tendance à être beaucoup plus volatiles, mais le seront aussi, bien entendu, lorsqu'il y aura baisse, avec des baisses qui seront de l'ordre, comme on l'a vu ici en 2021, de moins 90%. Donc ça peut faire très très mal de hold ce genre de choses pour des portefeuilles pour du long terme. Là, je pense qu'il faudra avoir une certaine agilité pour ceux qui sont exposés, bien entendu, que ça soit aux minières, aux sociétés comme Coinbase ou Circle, qui aujourd'hui, malgré tout, vont représenter moins de volatilité que des MicroStrategy et consorts. Et ensuite, en bout de fil, si vous voulez jouer les altcoins, au final, aujourd'hui, pourquoi pas jouer directement des MicroStrategy ou des minières. Au final, vous aurez à peu près le même résultat en termes de volatilité, sauf que vous n'aurez pas un alt qui, du jour au lendemain, pour X ou Y raison, va disparaître à moins 99%. En tout cas, petit à petit, c'est comme ça que je suis en train de réfléchir la chose. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'exposer aux altcoins, bien entendu, mais je pense qu'à aujourd'hui, il y a de plus en plus de risques de mal choisir quelque part ces candidats. Et on voit à quel point les bons élèves de 2021 ne le sont plus forcément déjà 3-4 ans plus tard. Et c'est là où c'est très difficile de défendre des thèses d'investissement long terme du côté des altcoins. En parlant de Circle, je vois qu'il est venu chercher quasiment son gap ici à $136. $1,000. Il a clôturé à 149. Donc, on pourrait avoir un ralentissement et tout ce qui se passerait éventuellement ici entre, on va dire, $114-$115 et la zone qu'il vient de taguer pourrait être un premier point d'entrée. Le souci, c'est qu'on est très loin d'être en bear market pour le marché crypto. Et ça, le jour où on est dans un vrai et dur bear market, je ne sais pas jusqu'où ça peut baisser. Peut-être même bien en dessous de son point d'introduction. Donc, faites attention à ça. Bien entendu, on se fera l'émission autour des altcoins à part comme c'est prévu et comme je vous l'ai dit dans la dernière, mais là j'avais pas le temps finalement de me pencher dessus trop longtemps aujourd'hui, donc ça sera très certainement en début milieu de semaine prochaine, à voir si on le fait en live, à voir si je fais une émission préenregistrée. Et je voulais clôturer donc avec Sol ETH, pas forcément pour dire que Sol voilà c'est nul ou que Ether a repris le lead etc, mais pour vous montrer ce que vous devez observer de votre côté aujourd'hui quand vous comparez vos altcoins. Certes, contre le dollar, ça a toujours son petit intérêt. On regarde si ça monte, si ça descend. Bon, bref, le dollar, on sait qu'il a tendance à être plutôt faible et à se déprécier au travers du temps. Mais aujourd'hui, ce qui doit nous servir de benchmark, tant quand on compare Ether à Bitcoin que quand on compare les altcoins à Bitcoin et à Ether, c'est la force relative justement de nos altcoins face aux deux premières crypto-monnaies du marché. Déjà, si vous êtes surperformant par rapport à Bitcoin, vous savez que vous surperformez tout. Deuxièmement, si vous surperformez face à un Ether qui lui-même est en train de nous faire son bull run un peu à retardement, vous savez que vous êtes vraiment sur un alt qui sort totalement du lot. Et je suppose, sans trop m'avancer, qu'aujourd'hui, pour trouver un alt qui surperformerait à la fois Bitcoin et à la fois Ether actuellement, il doit falloir sacrément se lever tôt. Et c'est ainsi que vous pourrez détecter au mieux, au niveau des tendances, ce que vous devez faire pour votre portefeuille et qui, au long terme, je suppose, vous convaincra d'avoir une vraie curation au niveau du nombre de lignes que vous avez dans votre portefeuille crypto ou des actions qui sont liées de près ou de loin. Et vous verrez que pour ceux qui avaient 10, 20, 30, 50 lignes parfois au niveau des alts, au final, vous n'en avez plus besoin que de 5 à 10 grand maximum pour vous concentrer justement sur ce qui est en train de marcher factuellement vis-à-vis de la phase de marché que l'on traverse. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve lundi prochain. Ciao, ciao.